Bonjour chers auditeurs de Radio Conciel. Bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Nous allons parler aujourd'hui de la paramantique. C'est un terme qui englobe l'ensemble des vêtements, coiffes, tentures, parements et ornements utilisés dans les liturgies religieuses. Alors les formes, les coupes, les dénominations et les coutumes liées à la paramantique liturgique ont fait l'objet de nombreux changements au cours des siècles. Or, il se trouve qu'à la cathédrale de Chartres, nous avons, surtout dans les sculptures au portail sud, un peu moins au nord, un ensemble particulièrement riche de l'art du vêtement liturgique, qui atteint son plein épanouissement au XIIIe siècle. Nous allons donc parler dans notre émission d'aujourd'hui de la paramantique des vêtements liturgiques et j'ai le plaisir et la très grande joie d'avoir avec moi dans le studio Monsieur l'abbé Philippe Ferré, prêtre et directeur de la bibliothèque diocésaine, dont il va peut-être nous parler un peu à la fin de l'émission, s'il veut bien. Vous allez nous parler donc des origines du vêtement liturgique, car on n'a pas toujours porté les mêmes vêtements liturgiques. Nous pourrons passer en revue les sculptures donc de Chartres pour décrire sur les différentes statues les vêtements et un signe surtout des papes et évêques, comment distinguer l'un de l'autre. Et nous apprendrons sans doute aussi quels vêtements sont communs aux évêques, aux prêtres et aux diacres et nous pourrons sans doute déterminer les vêtements qui sont spécifiques aux diacres, aux sous-diacres et aux autres clercs, car vous avez, cher monsieur l'abbé Ferré, écrit dans le bulletin de la Société archéologique de Ré-Loire en 1999 un excellent article qui résume très bien dans le détail ce qu'on voit sur le porche nord. Donc bonjour monsieur l'abbé Ferré.
Porche sud.
Porche sud, vous avez très bien fait de me corriger car on a au nord que le pape Saint-Pierre. On en parlera puisqu'il porte un insigne particulier sur sa poitrine. Donc, les origines du vêtement liturgique. Est-ce qu'on a toujours porté des vêtements séparés ou spéciaux pour...
Pas du tout. Dans les premiers siècles, il n'y avait pas de vêtements particuliers pour les célébrants. Le prêtre ou l'évêque qui présidait la liturgie, on le reconnaissait à ce qu'il faisait, et à la place qu'il occupait, mais sans vêtements spécifiques. On a encore le témoignage d'un portrait du pape Grégoire le Grand, c'était au début du 7e siècle, où il est vêtu comme son père, d'un vêtement commun. Donc il n'y avait pas encore de vêtements spécifiques. Puis on comprend que peu à peu, quand la liturgie s'est développée, quand l'Église s'est développée, on a eu des vêtements particuliers, puis on s'habille en costume de fête pour célébrer la liturgie.
Et on a sans doute des documents ou des écrits des pères de l'Église ou à l'occasion des conciles, des textes qui vont effectivement peut-être émettre des règles.
Ça viendra peu à peu, mais... C'est surtout à l'époque carolingienne, disons, que la paramantique liturgique s'est bien développée et fixée. Mmh. Mais on n'a pas beaucoup de témoignages, puisque avant, la question ne se posait pas. Enfin, je dis avant le 7e siècle. Hein, et à Chartres, au 13e siècle, là, nous avons un témoignage d'une paramantique liturgique bien établie, bien précise.
Et qui permet de distinguer, oui, dont nous allons parler. Alors, vous avez dit qu'on ne portait pas toujours donc, des vêtements à part ou spéciaux pour la liturgie, mais à un moment donné, on va dire que pour la messe, il faut porter des vêtements spéciaux.
Le prêtre ou l'évêque portera une chasuble, ce qu'on appelle maintenant une chasuble. Alors c'était au début un vêtement courant,
chez les Romains.
Courant dans tout l'Occident. Enfin, quand je dis l'Occident, disons chez nous. Quoi. Avait un vêtement rond avec un trou au milieu comme un poncho. Et on passait le trou pour la
souple.
Tête et puis un vêtement souple qui est bien retombant.
Et c'est effectivement cette forme-là que l'on peut trouver sur
les
statues du porche sud.
C'est cette forme-là qu'on a à la cathédrale. Oui, on va surtout parler des statues, mais il y a aussi de nombreux vitraux qui témoignent d'un vêtement liturgique. Moi, j'ai moins confiance dans les vitraux qui ont été restaurés, qui ont
plusieurs
été
fois, en effet.
Plusieurs fois. Mais
Très bien, vous avez tout à fait raison. On va peut-être passer tout de suite aux différentes statues, ce qui permet de parler des différents vêtements. Alors, on va peut-être commencer d'abord à expliquer à nos chers auditeurs, sans doute certains le savent très bien, que l'on peut distinguer les statues d'abord aussi grâce à leur couvre-chef, la coiffure ou la coiffe.
Oui, il y en a qui sont coiffés et d'autres qui ne sont pas coiffés. La coiffure est propre aux évêques, et c'était qu'on appelle la mitre. Je vais commencer par ça,
Très bien.
qui était un bonnet. Et initialement, imaginons un bonnet sur la tête avec un ruban qui est autour de la tête et qui tient le bonnet, avec un nœud par derrière. Ça va devenir la mitre avec ses fanons, c'est-à-dire les deux bandes de tissu, avec ces fanons qui sont les deux bandes de tissu qui descendent de la mitre par derrière. Alors on voit des mitres qui étaient en forme de vêtements à cornes latérales. Et il semble que jusqu'au XIe siècle, le bonnet d'évêque, appelons ça comme ça, était porté comme ça. Et puis ensuite, tant que les cornes ont été non pas latérales, mais devant et derrière, c'est la forme portée jusqu'à nos jours et dont nous avons de nombreux témoignages au portique sud de la cathédrale, avec une décoration plus ou moins ouvragée. Moi, ce que j'admire au portique sud, c'est la précision des décors, que ce soit donc le décor de la mitre, le décor des vêtements, le décor des aubes
Et les souliers
et
liturgiques
des
même
souliers.
du pape.
Et on les a dans des grandes statues, et puis on les a, parce qu'on n'en parlera peut-être pas beaucoup, toutes les statues dans les voussures où on a de nombreux clercs. Alors là, il y a aussi des pères abbés, il y a aussi des servants, turiféraires, acolytes, etc.
Donc,
Alors, le bonnet d'évêque, comme on l'a appelé longtemps, hein, c'est la mitre, et disons-nous bien, donc au XIIIe siècle. Au fond, les vêtements du XIIIe siècle ont cours jusqu'à maintenant.
Ce que vous avez dit au sujet de la mitre à deux cornes de l'évêque, c'est très intéressant parce qu'on a certaines verrières très anciennes où on croit pouvoir distinguer effectivement les évêques avec cette mitre. On voit les cornes à gauche et à droite de la tête et non pas comme aujourd'hui devant et derrière. C'est très important, je pense, pour la datation des verrières. On parlera du vêtement liturgique après la petite pause musicale. Nous voilà à nouveau dans le studio de Radio Grand Ciel avec Monsieur l'abbé Philippe Ferré, prêtre et directeur de la bibliothèque diocésaine, et il nous expliquait justement la coiffe de l'évêque, les vêtements liturgiques qui sont ciselés dans la pierre au porche sud, et Monsieur l'abbé était en train de nous parler justement des habits liturgiques de l'évêque, des évêques au XIIIe siècle.
Alors, la mitre dont nous parlions avant la pause, on n'était pas uniforme chez tous les évêques, et notamment l'évêque de Rome, pour sa part, ne portait pas cette mitre, mais une sorte de bonnet pointu. Et nous avons une magnifique représentation de Saint Grégoire au portique sud, dans la baie de droite.
Alors c'est l'abbé qui porte, c'est la statue qui porte un petit oiseau sur l'épaule.
Le Saint-Esprit qui inspirait Grégoire. Voilà la symbolique de ce grand personnage. Alors les évêques, y compris l'évêque de Rome, avaient toute une suite, au XIIIe siècle, avaient toute une suite de vêtements. On va peut-être les décrire un peu.
Très bien. Et leur forme.
Ils portaient d'abord une aube.
Qui vient du mot alba, blanc.
Par-dessus l'aube, ils portaient le vêtement du sous-diacre. C'est la tunique. Puis portaient par-dessus la tunique la dalmatique du diacre. Et enfin, la chasuble. Ce qui signifiait bien, ça c'était au XIIIe siècle, hein, je ne peux pas vous dire le moment précis où ce triple vêtement est apparu, mais qui signifiait bien que l'évêque avait la plénitude de l'ordre et qu'il était toujours sous-diacre, diacre et prêtre. Et les archevêques... Enfin, certains évêques, je dirais au XIIIe siècle, c'est un petit peu plus complexe, portaient le pallium. Le pallium qui, de nos jours, est l'insigne des évêques métropolitains, des archevêques titulaires d'un archevêché territorial. Mais on voit qu'à l'époque, certains évêques ont eu aussi le privilège du pallium, comme depuis fort longtemps l'évêque d'Autun. Et au XIXe et XXe siècle, un bon nombre d'évêques ont aussi été honorés du pallium, l'évêque de Chartres, jusqu'à Monseigneur Michon, et depuis le début du XXe siècle, parce qu'il était évêque d'une basilique prestigieuse, était honoré du pallium, et tout ça a été remis au clerc, et maintenant seuls les archevêques métropolitains portent le pallium. C'était une sorte de foulard ou d'écharpe que l'on portait sur l'épaule. Et au XIIIe siècle déjà, le pallium qu'on voit dans nos statues est en Y, si vous voulez, sur les épaules et qui descend sur la poitrine et qui a déjà la forme qu'aura le pallium de nos jours, qui est plutôt une sorte de collier de laine blanche, de la laine qui est bénite par le pape à la fête de Sainte Agnès.
Le 21 janvier.
Le 21 janvier. Et ça a toujours été le pape, l'évêque de Rome, qui a distribué le pallium à certains évêques et qui aujourd'hui le remet aux archevêques métropolitains. Voilà. De rite romain.
Voilà, et c'est vrai que, comme vous dites, c'est une très longue tradition, et il paraît que les agneaux dont la laine servira pour la confection des palliums sont élevés par des religieuses, et c'est aussi un vêtement à valeur symbolique. C'est le symbole de la brebis perdue, comme c'est la laine d'agneau, la brebis recherchée, sauvée et placée par le bon pasteur sur ses épaules, car effectivement, au Moyen-Âge, tout est symbolique.
Oui, on
ne peut pas parler de toute la valeur symbolique, on n'aurait pas le temps de décrire les vêtements, mais Guillaume Durand, dans son rationnel, va résumer justement toutes ces questions de symbolique des vêtements. Alors, nous étions au pallium qui est orné des croix. Des différentes
que
croix.
Que nous voyons sur au portail sud, orné de différentes croix. D'ailleurs, les palliums, il y en a 3 ou 4 ou 5 au portail sud, et davantage dans les voussures, sont ornées, décorées de manière assez différente les unes des autres.
Voilà, tantôt avec des franges, tantôt sans franges. On a le pape Clément dans le portail des martyrs qui le porte. Et puis Saint-Sylvestre, Saint-Martin et le pape Grégoire. Donc le pallium qui est un signe qui a une valeur symbolique, mais qui montre aussi une certaine puissance.
Les premières représentations du Christ en iconographie étaient celles du bon pasteur qui porte la brebis sur ses épaules. Et bon, bah, l'évêque est pasteur envoyé par le Christ, qui a dit à Pierre, sois le berger de mon troupeau. Mais c'est Christ qui est bon pasteur, et donc le pallium est très représentatif de la tâche pastorale que reçoit chaque évêque à berger de son église diocésaine.
Très bien, donc on a vu le pallium, on a vu que la dalmatique était un vêtement très festif.
La dalmatique est un vêtement festif, c'est une sorte, comment on va dire,
une tunique.
Une tunique à manches, à des manches très, très amples. C'était, oui, tout à fait le vêtement de fête dans la société romaine.
Et il pouvait donc avoir des orfrois.
Et avec des orfrois, et on a de splendides orfrois qui sont représentés là dans nos sculptures. Et tout à fait remarquable. Vous avez la photo de Saint Martin sous les yeux. Autant que je me souvienne, il a un très bel orfroi. Ça, c'est vraiment intéressant, ces sculptures qui... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme part d'imagination de la part des artistes, mais c'est quand même représentatif de la beauté des vêtements liturgiques au XIIIe siècle.
Alors, le mot orfroi vient de aurum, de l'or, et phrygium, parce qu'on pensait que ce genre d'ornement venait de la Phrygie. Alors, il faut supposer que c'était donc fait tissé avec des fils d'or. Et comme nous savons que toutes les statues étaient peintes, même si nous avons aujourd'hui
ça,
très peu de
traces...
Ça, c'est
bien dommage qu'on ne les ait plus.
On peut supposer qu'effectivement, ces statues étaient rutilantes.
Oui, oui.
Dans la puissance de leur gloire. Alors on a donc les vêtements qui distinguent l'évêque. On a vu que le pape portait à peu près les mêmes habits, seulement oui. il a à la place de la mitre la coiffe conique, qui au XIIIe siècle est la tiare, qui va changer de forme, qui va devenir une triple couronne.
Là, il y a le ruban qui serrait le bonnet autour de la tête, est devenu une sorte de couronne, enfin, disons pas couronne au XIIIe siècle, mais un ruban très, très orné avec des pierres précieuses, et puis un peu plus tard, ça deviendra une première, une deuxième et une troisième couronne
qui va. Chers amis auditeurs de Radio Grand Ciel, nous parlions des vêtements liturgiques au porche sud de la cathédrale de Chartres. Et nous avons dans le studio notre cher abbé Philippe Ferré, directeur de la bibliothèque diocésaine, qui nous parlait justement des papes et des évêques. Et je crois que vous vouliez, cher abbé, nous citer un auteur important
oui,
au sujet des vêtements
liturgiques. Oui, quant à l'évolution ou la formation du vêtement liturgique, on a un témoignage du début du IXe siècle, en pleine époque carolingienne, Charlemagne, 800. Et Strabon écrivait donc au début de ce IXe siècle qu'il n'était pas convenable que l'on de porter dans les fonctions liturgiques le même vêtement que tous les jours. Et c'est donc, on a encore le signe qu'au début du 9e siècle, le vêtement liturgique n'était pas encore tout à fait fixé. Mais ça vient.
Ça vient, effectivement.
Et nous, au 13e siècle, il y a quand même plusieurs siècles qui sont passés depuis l'époque carolingienne où vraiment la liturgie s'est fixée et on est en plein épanouissement. Je n'ai pas parlé jusqu'à présent des étoles.
Très bien, parce qu'on voit effectivement sous les chasubles,
on voit très
debout
bien,
d'écharpe.
On voit très bien sous la dalmatique, le vêtement du diacre, ou même sous la tunique, qui dépasse l'étole. L'étole, c'est une sorte là, de grande écharpe qui est portée autour du cou et qui descend très bas. Au XIIIe siècle, c'est l'insigne commun des évêques. Enfin, ce n'est pas l'insigne, c'est porté en commun par les évêques, les prêtres et les diacres. Et à Chartres, au portail sud, les diacres ne portent pas l'étole en sautoir, comme on le fait traditionnellement, mais droit comme les prêtres.
Parce qu'aujourd'hui, les prêtres se croisent normalement l'étole.
Non, mais les diacres portent l'étole en sautoir sur l'épaule gauche et qui descend de même. Ça, c'est commun à la liturgie romaine et aux liturgies orientales.
Et il est donc également orné de trois croix.
Orné de croix, parfois.
Dans la nuque du prêtre. Autrefois, je pense qu'il y avait toujours la croix.
On a fait
distinguer
beaucoup
la
de croix, mais on peut. C'est difficile à trouver une règle. Il y a eu des usages. C'est la liturgie est bien marquée par de nombreux usages locaux qui localement.
Ont perduré pendant de longues
perdure et pleine force de loi dans
et qui ont été pris en compte justement au Concile de Trente quand on va fixer effectivement la messe.
Ça c'est bien plus loin.
Bien plus loin, mais on va en tenir compte. Alors l'étole est le signe de la puissance sacerdotale. Elle est donc obligatoire pour célébrer la messe.
Oui.
Et il y a aussi un autre ornement obligatoire, le manipule.
Alors le manipule était porté à l'épaule gauche. Et là, on en a des splendides, au portail sud, très, très ornés, très travaillés. Ça a un usage, ça a une origine très utilitaire. Une sorte de tissu qu'on portait à l'épaule pour s'essuyer le front, à la manière des tennismen ou des tenniswomen. Des gens qui font du tennis et qui s'essuient le front, qui s'essuient la sueur.
Oui, c'est la même origine.
Même origine. Oui, oui. Et voyons au fond que beaucoup de vêtements liturgiques ont une origine tout à fait utilitaire.
Oui, parce que Guillaume Durand, dans son rational, le rappelle, l'usage du manipule n'est pas emprunté à Aaron, parce qu'on sait que Dieu a donné à Moïse tout un tas de règles pour les vêtements liturgiques, mais à des anciens pères. Alors, il rappelle bien qu'ils avaient l'habitude de célébrer la Sainte Messe et ils avaient l'habitude de porter le manipule au bras gauche, au poignet. C'est, dit-il, un ornement, originellement un linge à se moucher et à s'essuyer, effectivement, qui a été transformé.
On n'ose pas dire mouchoir maintenant parce que ça fait un peu trivial.
Mais cela a perdu un peu son origine un peu utilitaire, mais c'est devenu un ornement qui a une valeur symbolique également.
Tout était symbolique au Moyen-Âge. Alors, un symbolisme qui parfois s'est développé... un peu dans tous les sens.
Aujourd'hui encore, les prêtres disent la prière quand ils posent le manipule à leur poignet gauche. Que je mérite, Seigneur, de porter la manipule des larmes et de la douleur. Donc, effectivement, on peut retrouver une valeur symbolique à tous ces vêtements. La crosse, parlons de la crosse peut-être.
Le bâton pastoral. On avait tout à l'heure avec le pallium le souvenir de la brebis perdue portée sur les épaules, et puis le bâton pastoral, c'est le bâton du pasteur, du bon berger. Alors je vais plutôt employer le mot bâton pastoral parce qu'il a eu plusieurs formes. Soit la crosse, un bâton généralement en bois et terminé par, enfin en bois, oui, encore au XIIIe siècle, ou parfois déjà en métal, et terminé par une volute qu'on va appeler la crosse proprement dite, en ivoire ou en métal, ou parfois très simplement en bois. Oui, on en a de très beaux spécimens. Bon, autre forme du bâton pastoral, terminée par une croix.
Ça, c'est le pape qui va.
Alors, le pape notamment, mais c'était pas le seul, mais portait donc cette croix hastée. Et l'évêque de Rome n'a jamais porté de crosse.
Oui, parce que la crosse avec la volute qui se termine sur elle-même signifie que le pouvoir de l'évêque est limité, alors que la croix va dans les quatre sens. On pourrait y retrouver Guillaume Durand le sens de.
Mais Guillaume Durand,
on a beaucoup
rajouté. Hein.
Alors, il ne faut pas oublier.
Il est intéressant parce qu'il représente une mentalité et puis.
C'est une somme.
Une réflexion et puis de trouver. Une symbolique à tout. Mais on a eu depuis certains auteurs pieux qui trouvaient une symbolique alors absolument débridée parce que tout était symbolique.
Faut toujours mesurer.
On a au 19e siècle des images de la messe qui sont vraiment stupéfiantes.
Je vous interromps presque, cher M. Labbé, parce que je voudrais que vous nous parliez de l'éphod, du rational et que portent aussi les évêques, certains évêques, et surtout.
Il y a eu alors là. C'est une convergence de divers usages. Un vêtement liturgique dont j'ai pas parlé, c'est la chape. Et la chape, c'est un manteau qui s'appelle aussi un pluvial parce que c'était un manteau de pluie au fond, un manteau enveloppant, mais différent de la chasuble, c'est-à-dire c'était pas rond avec un trou au milieu. C'est une cape qu'on se met sur les épaules avec un chaperon pour s'abriter la tête, et c'est devenu la chape toujours en usage dans nos églises. Et il y avait le problème de la fermeture, enfin c'est pas un problème, mais la fermeture de la chape était variée, et les évêques avaient notamment un fermoir tout à fait orné et qui était le signe de leur épiscopat. Alors, ça rejoint. On va être obligé de s'arrêter.
Je pense qu'on va être obligé de s'arrêter, mais rien ne nous empêche de poursuivre notre entretien
dans
une. On aura pas parlé
du rational.
On aura l'occasion. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'Abbé Ferré. C'était très intéressant. Nous avons découvert avec vous la richesse, la précision et la finesse des ornements liturgiques au porche sud de la cathédrale de Chartres. À bientôt, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. À une autre fois. Thank you.